Amen. Amen. Merci à chacun d'être là. Et on est dans une série de messages qui est la puissance des maisons. Et dans cette série-là, le Seigneur nous emmène sur les fondamentaux même de ce que c'est qu'une maison. Une maison en tant qu'église locale, une maison en tant que foyer, en tant que ta maison physique, une maison en tant que groupe de maisons, cellule de maisons, mais en tout cas une maison comme Dieu le définit. Et quelle est la puissance? Comment avoir des maisons qui sont puissantes? Donc on est dans cette série-là. Il y a un élément fondamental d'une maison puissante selon le Seigneur, c'est l'adoration. C'est l'adoration. L'adoration est un point clé d'une maison puissante. Et à l'origine de tout, le Seigneur va poser cette base-là. Alors que le Seigneur va mettre en place la première maison, celle d'Adam et Ève, il va mettre le fondement, il va leur donner le fondement principal de la maison. Ce sur quoi cette maison doit être construite, c'est l'adoration. Regardons dans Genèse 2, chapitre 2, verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaçant dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. En fait, Dieu va faire l'homme à son image et il va le placer dans le jardin d'Éden. Et il dit, la Bible dit pour le cultiver. Le mot cultiver est la traduction en fait du terme hébreu abad. Et en fait, ce terme abad, c'est dingue, ce terme abad signifie travailler, servir par son travail. Donc, comme pour dire servir comme un sujet de quelqu'un. Donc, je suis le sujet d'une autorité et je vais servir cette autorité, je vais honorer cette autorité, je vais rendre hommage à cette autorité par le travail que j'accomplis. Donc, en fait, littéralement, le Seigneur est en train de dire à Adam, il est en train de dire à l'être humain, je t'ai créé, je te mets dans le jardin, ta mission première. La mission première de ta maison, c'est de m'adorer au travers de ton service. Tu cultives et dans le mot cultiver, il y a la substance de l'adoration. Tout part de l'adoration. Dieu va mettre la base à ce moment-là. Waouh! Je me dis, mais c'est fou. Dès qu'une maison est fondée par Dieu, sa mission première, c'est de le servir, c'est de l'adorer. Dès qu'on est créé, la destinée, le but de notre vie, notre raison d'être, et on le chante dans un chant, notre raison d'être, c'est d'adorer Dieu. C'est d'adorer Dieu. Et quand on regarde au travers de toute la Bible, le concept biblique fondamental même du culte ou de l'adoration est celui du service. C'est vraiment le même terme. Les principaux termes bibliques désignant le culte signifiaient à l'origine le travail des serviteurs à gage. Donc, c'est vraiment, quand on parle d'un culte, quand on parle d'adoration, on utilise le mot servir, mais en fait, c'est le mot adorer. La substance, c'est l'adoration. Donc, tout part de là. Merci Seigneur. Pour adorer Dieu, le peuple de Dieu doit exprimer son respect, son admiration. Je dois le vénérer, je dois l'honorer, je dois lui rendre hommage. C'est notre mission première. Et dans les précédents messages qu'on a eus dans cette série, Dieu nous a permis de comprendre un certain nombre de choses. Il dit par exemple, considère ce que tu as. Quelquefois je regarde le verre à moitié vide et je ne vois pas le verre qui est plein, alors que je mets le focus, comme pasteur Mathieu disait, sur ce que je n'ai pas. Le diable va m'attirer vers les murmures et il va m'éloigner de Dieu, il va m'éloigner du principal, alors que si je considère ce que j'ai, ce que le Seigneur m'a donné, je vais rendre grâce. Il faut que je rende grâce en toutes circonstances. Je regarde ce que j'ai, je rends grâce. Et pasteur Céline disait, il faut mettre Dieu, Jésus au centre de la maison. Ça veut tout dire. Parce qu'en fait, la maison, quand elle est créée, c'est pour adorer Dieu. Donc, il ne peut pas avoir d'autre centre, d'autre pilier, d'autre élément que Jésus, que l'adoration à mon Dieu. Seigneur, je veux que ma maison t'adore. Je suis ton enfant. Nous sommes ton peuple et nous voulons être un peuple d'adorateurs, d'adoratrices. Il s'agit donc d'adorer Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Je ne regarde pas la partie du verre qui est vide, mais je regarde ce que j'ai. Et je dis oui, je bénis Dieu pour ce que je n'ai pas, je bénis Dieu pour ce que j'ai, et j'adore Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Notre raison d'être, c'est de l'adorer, les amis. Et l'adoration doit être au cœur donc de la maison, comme l'a dit Pasteur Céline, c'est le centre, Jésus est le centre, et je l'adore. Il y a un point dans les évangiles qui vient me frapper. Regardons dans Marc 14, verset 3. Il est dit ceci. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, entre quatre murs, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Waouh ! L'adoration. L'adoration. Et la Bible dit, quand vous lisez la suite, que les gens vont dire, mais pourquoi tu fais cela ? Ils vont commencer à quasiment critiquer cette dame. C'est trop cher. Qu'est-ce que tu fais là ? Et Jésus va dire, attention, ne lui faites pas de la peine. Elle m'a adoré là. Elle m'a préparé pour le tombeau. Et en fait, elle était prophétiquement en train de louer Dieu pour l'œuvre de la croix et de la résurrection. On va y revenir. Mais ce qui est fou, c'est que Jésus va dire, partout où l'évangile sera annoncé, peu importe le temps, peu importe le lieu, on va parler de cette dame. Et on est en train de le faire aujourd'hui. Waouh ! L'onde de choc de l'adoration. Ça s'est passé dans quatre murs, il y a des siècles. Il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas une caméra comme ce matin. Mais aujourd'hui, l'onde de choc d'une adoration dans une maison de Simon est aujourd'hui au 21e siècle palpable encore. L'adoration dans une maison déclenche une onde de choc à l'extérieur, forcément. Et donc si notre maison, ton église locale, ta cellule de prière, appelle-le comme tu veux, le groupe de maison, ta maison, ton foyer, est une maison qui met au centre l'adoration, la mission première d'une maison, forcément il y aura une onde de choc autour, qui va aller autour, qui va sortir, qui va toucher le monde entier, qui va toucher tes voisins, qui va toucher la région, qui va toucher la ville. Et Dieu veut que nous soyons une maison puissante, là où Dieu nous a placés, à Toulon, à Brignoles, à Marseille. Je le crois, ça va le faire, qu'on ait cette onde de choc là, parce que on brise le vase d'albâtre et qu'on répand le parfum sur la tête de Jésus tous les jours. Alléluia. Une maison puissante, une maison est puissante si elle remplit sa mission première, donc, d'adorer Dieu. On va mettre le focus sur le préalable. Le terme est tellement grand, on ne va pas parler de tout ce qui est adoration, on ne pourrait pas le faire aujourd'hui. Mais en tout cas, je veux mettre le focus sur deux points qui sont pour moi des préalables, qui font partie des préalables même à l'adoration, pour rentrer dans l'adoration. Et pour prendre ces exemples-là, on va regarder l'exemple d'Abraham et de sa maison, le peuple d'Israël. Je pense qu'il y a énormément d'enseignements que le Seigneur nous a donnés au travers de la vie d'Abraham et du peuple d'Israël et du peuple de Dieu. Regardons déjà dans Genèse 12, versets 6 et 7. On lit ceci. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham. Et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Waouh! Abraham, qui s'appelait Abraham, il n'y avait pas le Ham derrière à ce moment-là, avant que Dieu ne change son nom. Abraham va partir de son pays. Dieu va lui dire, pars de ton pays, je te bénirai, je te conduis vers une terre promise. Et Abraham va partir. Et Dieu va se révéler à lui, Dieu va lui faire une une promesse. Il va dire, voici le pays que je donne à ta postérité. Et Dieu va lui montrer le sable. Il va dire, compte les grains, si tu y arrives. Il va lui montrer les étoiles. Compte les étoiles, si tu y arrives. Ainsi sera nombreuse ta postérité. Et quand Dieu apparaît à Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit un autel. L'autel, c'est le signe clair de l'adoration. Parce que l'autel, c'est l'offrande. Et sur l'autel, je vais offrir, je vais poser mon offrande, je vais adorer Dieu avec ce que j'ai, je vais apporter un sacrifice et je vais adorer Dieu. Donc, Abraham, il voit Dieu, il se prosterne, il va construire un autel et il va adorer Dieu. Il a le cœur d'adorateur. Le fait marquant ici, effectivement, c'est que Abraham a ce cœur d'adorateur et que systématiquement, quand vous lisez l'histoire d'Abraham, systématiquement, il va construire un autel. Quand Dieu lui apparaît, il construit un autel. Quand Dieu lui fait une promesse, il construit un autel. Quand il part en Égypte parce qu'il y a la famine, il y va et que Dieu va le sortir d'Égypte, Dieu va le sauver d'Égypte, Dieu va lui donner des richesses énormes, il va revenir, il va construire un autel. Quand il change un lieu et qu'il retourne à un lieu, il construit un autel. Quand il pose sa tente, il relève sa tente, il construit un autel. C'est un constructeur d'autel, Abraham. Et je pense que Dieu connaissait son cœur, ce pourquoi il a choisi. Je pense que ça a joué dans le CV d'Abraham. Quand Dieu l'a choisi pour être le père de toutes les nations d'adorateurs, Dieu a regardé ce cœur d'adorateur. Il a dit, l'adoration première que j'ai posée dans le jardin d'Éden, ce gars-là, il l'a. Je regarde son CV, adorateur, constructeur d'hôtel, waouh! Donc Dieu va choisir Abraham, je suis sûr, parce qu'il a ce cœur d'adorateur. Et la Bible dit que toi et moi sommes les fils et les filles d'Abraham, spirituellement parlant. Et donc, si nous sommes les fils et les héritiers de l'alliance faite avec Abraham, ça veut dire qu'il faut que l'ADN d'adorateur coule dans nos veines, que l'ADN d'adorateur coule dans tes veines, qu'il coule dans mes veines, et que je sois un adorateur, et que ma maison soit une maison d'adorateur. Oui, on est des enfants d'Abraham, c'est clair. Regardons Romains 4, versets 16 à 17. Il est dit ceci, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Pour toi, mon frère, pour toi, ma sœur, à toi, cette promesse-là est donnée. Et la Bible dit, à celle qui a la foi d'Abraham, notre père à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru, Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Tu as cette foi en Dieu qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il faut que la foi d'Abraham coule dans nos veines. Il faut que cet ADN d'adorateur coule dans nos veines. Je vais pas aller sur ce terrain, mais vous voyez ce que je veux dire. On est des adorateurs. On a l'ADN en nous. Cette alliance-là qui a été faite à Abraham, elle est en nous parce que nous sommes la postérité spirituelle. D'ailleurs, Jésus va dire ceci, Jean 4, versets 23 et 24. Il dit, quand il parle à la Samaritaine, alors que nous sommes un peu le reflet de la Samaritaine, les personnes à l'extérieur de la postérité physique, il dit ceci, mais l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jésus est en train de dire que c'est bon, la séquence est arrivée où tu vas être connecté à l'ADN d'Abraham, alors que la promesse est partie physiquement et que Jésus, dans son être physique, dans son état d'être humain, est de la descendance d'Abraham, de la tribu de Juda. Il va arriver, il va prêcher au travers de son ministère, au travers de sa mort et de sa résurrection. On va y revenir. Il va nous connecter à cette promesse divine. Il va nous connecter à l'ADN d'adorateur. Il va nous connecter à ce peuple. Il va nous mettre la fibre optique, le wifi divin, la bande passante divine, le forfait illimité de Dieu qui nous connecte à l'ADN d'adorateur et d'adoratrice. Jésus va le faire. Je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Dieu fait une promesse à Abraham pour sa postérité. Peut-être qu'Abraham le voyait de façon physique uniquement et qu'il aurait une descendance énorme. Mais Dieu voyait plus loin. Et au travers de la bénédiction physique, au travers de la postérité physique, Dieu va ouvrir la bénédiction spirituelle. Et il va rattacher un peuple qui devient de ce fait des héritiers de cette alliance-là qui a été faite avec Abraham. Suis-moi très bien. C'est peut-être une parole pour toi ce matin, pour toi qui écoutes après. Tu es peut-être en train de vivre, ou certainement en train de vivre, une bénédiction physique. Sache que ta bénédiction physique ne peut pas être déconnectée du spirituel. Le Seigneur veut que tu en prennes conscience. Ce que tu es en train de vivre doit avoir un écho dans l'esprit. Ce que tu es en train de vivre physiquement ne peut pas être limité qu'au physique. Dieu veut qu'il y ait un écho dans l'esprit. Dieu veut qu'il y ait un impact dans l'esprit. Dieu veut qu'il y ait une bénédiction spirituelle qui sorte et qui germe de la bénédiction physique que tu es en train de vivre en ce moment. Je ferme la parenthèse. Jésus va donc ouvrir cette bénédiction à nous pour qu'on puisse avoir cette connexion, cette fibre optique connectée à nous pour que l'ADN d'adorateur coule en nous et ça se concrétise dans acte 2. Dans acte 2, quand je lis ça, je dis, mais c'est ça, c'est concret, c'est fait là. Quand le Saint-Esprit va descendre sur les disciples, les 120 qui étaient dans la chambre haute, ils étaient encore dans un environnement d'une maison physique. Le Saint-Esprit va descendre sur eux, ils vont commencer à parler en d'autres langues, en des langues de personnes qui étaient venues de toutes parts du monde et qui étaient là et qui entendaient les disciples dire des merveilles du royaume de Dieu dans leur propre langue. Les amis, les disciples n'étaient pas des érudits, tous, il y avait certes, oui, un collecteur d'impôts, il y avait un médecin, mais franchement, ce n'étaient pas des gens qui ont fait Bac plus 20. Mais là, sous l'action du Saint-Esprit, ils vont parler d'autres langues. Et les gens à l'extérieur de la maison vont l'entendre. Et ensuite, ils vont sortir de la maison où ils étaient. L'impact, ce qui se passe, l'adoration, ce qui se passe dans une maison a forcément un écho à l'extérieur. Il est impossible qu'une maison puissante ne puisse pas avoir d'écho à l'extérieur. Et pour cela, l'adoration est un principe fondamental. Alors les disciples vont sortir. Pierre va aller devant, il va prêcher. Et 3000 personnes vont se donner à Jésus. La connexion est faite ce jour-là. Waouh ! Regardons nos deux préalables. Puisque cet ADN coule en nous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet ADN ? Plusieurs choses. C'est énorme, c'est vaste comme sujet. Par contre, j'ai mis l'accent, en tout cas le Saint-Esprit m'a conduit sur deux points. Le premier, c'est celui de la confiance en Dieu. On pourrait dire la foi. Abraham est le père de la foi, on le sait. Et j'aimerais plutôt utiliser le terme de confiance. Confiance en ce sens de « je sais en qui j'ai cru et cette situation qui arrive, j'ai envie de dire, c'est son problème. » Regardez ce qui se passe. Lorsque Dieu va demander à Abraham de lui offrir son fils unique, Isaac, qui venait d'avoir... Bien sûr, il y a eu Ismaël, mais Dieu a bien dit que la promesse, c'est sur la lignée d'Isaac. Et il va lui dire d'offrir Isaac en sacrifice. Disons les termes comme il faut, de le tuer. C'est violent. Oui, c'est pour qu'on puisse considérer la tristesse indescriptible qu'Abraham pouvait ressentir. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va laisser Abraham mariner dans cette idée-là. Il va lui donner le message et Abraham va devoir marcher plusieurs jours avec son fils, les serviteurs. Ensuite, il va monter la montagne, il va gravir la montagne. J'appelle ça même la montagne de l'adoration. Mais c'est pas simple. Tout ça avec la douleur. Le poignard dans le cœur, ça lui faisait mal, mais c'est dur, mais je vais adorer en toutes circonstances. Il va gravir cette montagne, il va chercher le bois, il va prendre le feu avec son fils et il va y aller, il va jusqu'au bout quand même, parce qu'il avait confiance en Dieu. Il avait confiance. Il se dirait ça. Il se disait, c'est le deal de Dieu, ça. Il me l'a dit, j'y vais. Il se débrouille. Je lui fais confiance. Et d'ailleurs, son fils va lui poser une question. Il va lui dire, mais père, on a le feu, on a le bois, mais où est l'animal pour l'offrande? Où est l'animal pour le sacrifice? Regardez ce que Abraham répond. Genèse 22, 8. Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. C'est son problème. C'est son deal. Je lui fais confiance, il va le faire. Est-ce que Abraham était en train de cacher quelque chose à son fils? On pourrait le dire ainsi. Mais en fait, Abraham avait tellement confiance en Dieu, et on le voit dans le livre de Hébreux 11, Abraham avait tellement confiance en Dieu qu'il savait que même s'il allait jusqu'au bout du sacrifice, Dieu le ressusciterait. Il avait confiance en Dieu. Il est dit dans Hébreux 11, 17, 19, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Regardez ceci, ça me plaît. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Et l'auteur aux Hébreux dit, aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Parce qu'au final, Isaac n'a pas été sacrifié. Mais Abraham avait tellement confiance en Dieu qu'au final, Dieu a agi et il a changé les choses. C'était comme une résurrection. C'était comme si Abraham était allé jusqu'à faire ce sacrifice. La confiance en Dieu a fait la différence. Et quand on a confiance en Dieu, les amis, Dieu aime cela. Et Dieu ne l'oublie pas. C'est comme si tu stockais quelque chose dans un compte en banque au ciel. Et il est dit, je prends beaucoup de versets ce matin, mais il est dit, dans Genèse 15, 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Regardez ça. Il a eu confiance en l'Éternel qui le lui imputa en justice. Confiance, pam. Confiance, hop. En fait, c'est comme si, quand tu as confiance en Dieu, tu as beau être coupable d'une situation, quand tu te présentes devant la justice divine, il regarde. Waouh, j'ai de la confiance, alibi. La confiance fait tout. La confiance en Dieu est la base même de c'est un préalable au cœur d'adorateur. Parce que quand tu as confiance, tu endors. Tu ne peux pas adorer Dieu si tu n'as pas confiance en lui, si tu n'as pas cette dimension de foi. Et j'utilise, de façon exprès, le terme confiance au lieu du terme foi, pour ne pas tout mettre là-dedans, mais vous voyez où je veux en venir. C'est la confiance où tu te dis, ok, il y a cette situation, écoutez, je le mets entre les mains de Dieu, c'est son deal. Vous voyez? C'est cette confiance-là. Cette confiance-là. Et donc, la confiance est donc comme un trésor stocké sur un compte dans le ciel, dont Dieu se sert chaque fois. Il regarde, il dit, waouh, il lui impute en justice la confiance. Waouh, il y a de la confiance, j'impute en justice. La confiance est un préalable à l'adoration, les amis. La confiance en Dieu. On va aller sur le second point. Et à ce niveau-là, regardons donc la maison d'Abraham, donc le peuple d'Israël qui est sorti d'Abraham. Dieu avait dit à Abraham que ce peuple serait en esclavage, on le voit dans Genèse 15, versets 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite. » Avec de grandes richesses. En fait, Dieu montre cette situation à Abraham et les choses vont se passer ainsi pour ceux qui connaissent l'histoire. Jacob et ses enfants qui vont rejoindre Joseph qui était en Égypte parce qu'il y avait la famine. Le peuple de Dieu va se déplacer en Égypte et va y vivre des siècles après. Et le peuple va vivre en esclavage. Et à un moment donné, Dieu va se souvenir de sa promesse à Abraham et il va choisir Moïse pour faire sortir le peuple, pour accomplir cette promesse. Et ce qui est intéressant, ce qui est bizarre, quand je lisais ce chapitre, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Regardez dans Exode 3, on va lire à partir de verset 18. Quand Dieu parle à Moïse, quand il se révèle à Moïse, il dit ceci, « Ils écouteront ta voix, les Israélites écouteront ta voix, et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, écoutez ce qu'il dit, hein. Vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Point. Mais attendez, j'ai envie de dire, la promesse que Dieu a faite, c'est de sortir d'Égypte et d'aller à Canaan. Et d'aller dans la terre promise. D'ailleurs, quand on lit les versets au-dessus, les versets 15, 16, 17, on voit que Dieu dit à Moïse, tu les mèneras vers le pays promis, vers la terre où coule le lait et le miel. Il n'est pas en train de dire à Moïse, tu les fais sortir 3 jours, vous adorez. Point. Non. Mais par contre, il dit à Moïse, tu iras avec les anciens d'Israël parce qu'ils vont t'écouter, tu iras. Et tu iras dire au roi, celui qui les a servis, celui qui est l'homme fort sur leur vie, tu iras leur dire, oh, tu les laisses sortir, on va partir 3 jours dans le désert, on va y revenir, mais pour adorer, point. En fait, le but, la première chose, la première substance que je sors de là, sur ce deuxième point, c'est que on est affranchi pour adorer. On est sorti de l'esclavage. Le but premier, c'est pour adorer. Certes, tu as des promesses sur ta vie. Certes, Église, on a eu des promesses, on a des choses que Dieu nous a dit. Mais ce n'est pas la finalité, ce n'est pas l'objectif principal. L'objectif principal, c'est le cultiver de l'origine. C'est va-t'en, sors de là et adore. Sors de là et adore. Il y a tellement de choses qu'on peut saisir dans ce verset 18 de Exode 3. Il y a tellement d'enseignements. Mais la première chose que je vois, c'est que Dieu est en train de dire que la situation d'esclavage est complètement incompatible avec celle d'adoration. Il faut qu'on sorte. Là, je mets le focus. Le thème, c'est peuple d'adorateurs, d'adoratrices, maison d'adorateurs, d'adoratrices, et c'est individuel. J'aimerais qu'on puisse faire une conscience, qu'on puisse prendre conscience individuellement de notre situation. Dieu est en train de dire qu'il faut que tu sortes. Qu'il faut que tu sortes et que tu partes adorer. Donc, déjà, il y a une première chose, c'est de sortir de l'esclavage. Merci Seigneur. J'ai envie de dire ceci. Le peuple d'Israël, quand ils ont reçu Moïse, la Bible dit, et Dieu l'a dit à Moïse, ils vont t'écouter. Ils t'écouteront. Est-ce que tu entends la voix de Dieu ce matin? Est-ce que tu l'écoutes ce matin? Parce que le sortir, tu ne pourras pas le faire seul. On le fait ensemble, mon ami. C'est ensemble, en famille. C'est en tant que maison qu'on va le faire. Mais il faut que tu écoutes. Il faut que tu écoutes. Ils t'écouteront et tu iras avec eux. Alors on va aller ensemble dans la prière. Mais dans la prière d'intercession, dans la prière de combat. C'est ce que Dieu montre dans ce verset. Ils vont se présenter devant l'homme fort de leur vie qui était Pharaon. Quel est l'homme fort de ta vie? Quels sont les liens dans ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un peuple qui adore Dieu? Qu'est-ce qui t'empêche d'être un peuple qui vit l'origine même de ce que Dieu veut pour toi? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui? Quel est cet homme fort? Quels sont les liens dans ta vie, mon ami? Écoute le message et viens ensemble qu'on aille devant cet homme fort. Et alors je déclare, alors que dans ton cœur, tu es en train de regarder cette situation et tu dis « oui, c'est vrai ». Je déclare maintenant même à l'homme fort de ta vie que Dieu dit « laisse-le sortir, laisse-la sortir, pour qu'il aille loin de toi, pour adorer le seul vrai Dieu. Il n'y a que Dieu qui est digne d'adoration. Jésus le dit dans Marc 4, 10. Il va s'adresser à Satan, alors que Satan va avoir le culot de venir s'adresser à Jésus et vouloir lui demander d'adorer quelqu'un d'autre que Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras. » Le terme « servir » est là. « Et tu le serviras lui seul. » Lui seul, c'est l'origine des choses, rien d'autre que cela. Et aujourd'hui, je déclare que tu dois sortir pour adorer Dieu. Et on va le faire ensemble. Écoute la parole. Et tout à l'heure, vous allez prier dans les groupes de maison. Ou si tu écoutes ce message après, tu es tout seul chez toi. Tu es quelque part sur la planète Terre, peu importe. Mais il faut que tu te rapproches d'une église. Tu as toutes les informations sur Internet. Rapproche-toi de quelqu'un qui connaît le Seigneur. Il faut que tu sortes. Il faut que tu sortes pour adorer le seul vrai Dieu. Pourquoi Dieu va mettre l'accent sur 3 jours? Pourquoi c'est cette version-là de l'Exode que Dieu donne à Pharaon? En fait, à Pharaon, à l'adversaire de ton âme, à l'ennemi de ton âme, il n'y a pas besoin qu'il connaisse toutes les promesses, tout le plan de Dieu. Lui, tout ce qu'il doit savoir, il doit lâcher prise. Les liens vont être brisés. C'est tout. Et secondo, 3 jours de marche. Pourquoi est-ce que dès que le peuple sort, il ne peut pas adorer tout de suite? Il faut qu'il marche pendant 3 jours. Je n'ai pas calculé, j'ai voulu le faire. Je ne l'ai pas fait, mais 3 jours de marche dans le désert, combien de kilomètres ça peut faire pour un peuple qui était de peut-être un peu plus d'un million? Combien de kilomètres ça peut faire? Mais cela me parle premièrement du fait qu'il faut s'éloigner de la situation d'esclavage. Il faut s'éloigner de ce qui te retient, esclave. Il faut que tu sortes de là, mais pas simplement sortir et garder la chose auprès de toi et la maintenir et tenir toujours à cette chose. Il faut t'éloigner 3 jours. Va loin, va loin. Et seulement à ce moment-là, mon frère, ma sœur, tu vas pouvoir fléchir les genoux et adorer Dieu. Et 3 jours me parlent, deuxièmement, de l'œuvre de Jésus à la croix et dans la résurrection. 3 jours. 3 jours. Le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour nos iniquités. Il est descendu dans le séjour des morts et il est ressuscité le 3e jour. 3 jours. 3 jours de marche dans le désert. 3 jours dans la mort de Jésus pour nous donner la victoire. Oui, si tu t'éloignes du péché, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes ce que le Seigneur te dit aujourd'hui et que tu te mets en prière avec des frères, avec des sœurs pour sortir de là, pour déclarer la délivrance et que tu vas en profondeur, l'œuvre de la croix et de la résurrection de Jésus va agir dans ta vie et tu vas revenir à ta mission première qui est celle d'adorateur. C'est un préalable à l'adoration. C'est le préalable à l'adoration. Je ne peux pas être esclave du péché et être un adorateur. Je ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ce n'est pas possible. Il faut servir Dieu. Et dans servir, il y a adoration, il y a adorer. Il faut donc être libéré pour adorer Dieu, pour adorer Dieu. Et l'œuvre de la croix est importante. En fait, je vais mettre un zoom sur cette œuvre de la croix parce que c'est vraiment important. Les 3 jours que Jésus a connus dans la mort n'ont pas été des jours de chômage pour lui. Entendez bien ceci. Quand Jésus est mort physiquement, en esprit, il est descendu, la Bible dit, il est descendu dans le séjour des morts, et qu'est-ce qu'il va faire? Apocalypse 1, 18 nous dit clairement qu'il est descendu et qu'il a pris les clés, il a arraché les clés du séjour des morts. C'est lui qui tient les clés du séjour des morts entre ses mains. Ça me parle de victoire sur la mort, ça me parle de victoire sur ce qui te tient captif, ce qui te tient comme mort, ce qui fait que tu es un ossement desséché. Excuse-moi, mais il y a ce flot-là. Si tu es un ossement desséché aujourd'hui, sache que Jésus a arraché la clé du séjour des morts et de la mort, et que tu peux revivre. C'est cette œuvre de la croix. 3 jours. 3 jours. Et j'aimerais aussi dire ceci, et qui est important, c'est que quand Jésus va se réveiller de la mort, il va accomplir une chose qui est hyper importante pour chacun de nous. C'est qu'il va rester avec ses disciples, il va leur apparaître pendant plusieurs jours, 40 jours, et ensuite il va monter au ciel. Mais ce qui va se passer, les amis, on le voit dans Hébreux 9, 11 et 14, c'est que Jésus va monter au ciel avec son sang qui a coulé à la croix, l'œuvre de la délivrance. Il va monter et il va traverser le tabernacle divin. Il va faire une marche triomphale. Il va avoir une haie d'anges, et je le vois dans l'esprit, une haie d'anges qui se procède et qui crie « Jésus, 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 victoire !» Et Jésus va avancer avec son sang. Il va avancer devant le trône du Père et il va présenter son sang pour notre rédemption, pour notre salut. Hébreux 9, 11, 14, il est dit ceci. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Pour toi et pour moi. L'œuvre de la croix. Quand Dieu te libère du péché pour faire de toi, pour te ramener à ton identité de base d'adorateur, il y a l'œuvre de la croix qui prend place. Et c'est important. Je parle à quelqu'un aussi ce matin qui dit, moi, je ne suis pas chrétien. Peut-être que tu as été invité dans un groupe de maison et tu n'as pas encore fait ce cheminement-là avec Jésus. Ou bien peut-être que tu écoutes ce message ou tu le regardes sur YouTube plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois après. Mais la parole de Dieu est efficace pour te toucher ce matin. Et Dieu dit que Jésus a donné sa vie à la croix pour toi. Il est descendu dans le séjour des morts pour arracher les clés du séjour des morts pour te donner la vie éternelle. Et qu'il a traversé le tabernacle divin pour présenter son sang pour que tu sois libéré de tout péché. Cette œuvre de la croix là, elle est valable pour toi, pour te sauver. Tu as peut-être un vide dans ton cœur quand tu vas te coucher chaque soir. Et tu te dis, mais je ne comprends pas, je ne suis pas satisfait. Tu vas passer ton temps dans les boîtes de nuit. Tu passes ton temps dans l'alcool, dans la drogue. Tu passes ton temps dans la débauche sexuelle parce que tu penses que cela va t'apporter une satisfaction. Sur le coup, tu as un semblant de satisfaction. Et quand c'est fini, tu te rends compte que le vide est là et il est encore plus grand. Tu te réveilles le matin, tu as la gueule de bois et tu ne sais pas ce qui t'arrive. Je te dis ce qui t'arrive. Tu as été créé pour servir le Dieu Tout-Puissant. Et tant que tu ne le sers pas, ce vide va demeurer. S'il te plaît, Jésus a donné sa vie pour que tu reviennes. Alors ne résiste pas. Tu as essayé beaucoup de choses. Tu as essayé les sciences occultes, je ne sais quoi. Essaye Jésus, parce que c'est le véritable. Le vide qui est en toi a simplement la forme de Jésus. Et parce que tu as été créé pour adorer, si tu ne l'adores pas, ce vide va perdurer. Donne ton cœur à Jésus et tu verras que tu deviendras un adorateur, une adoratrice à la gloire de Dieu le Père. Et tu vas voir que les choses vont changer dans ta vie. Je prie donc que cela prenne forme dans notre vie. Pour celui qui s'est éloigné, tu connais le Seigneur, tu t'es éloigné et tu vis dans une situation de péché, disons les choses comme elles sont. S'il y a le péché, il n'y a pas de condamnation, t'en fais pas. Parce que ce message est un message de salut. Dieu veut que tu redeviennes un adorateur, une adoratrice, pour qu'ensemble on soit une maison d'adorateurs. Parce qu'on a été connecté à l'ADN d'Abraham, qui est un ADN d'adorateur. Et il faut que tu reviennes dans cette position-là. Écoute le message, va voir des frères, et ensemble on va prier pour que tu sois libéré de l'homme fort qui te retient encore captif dans le péché. Dieu veut libérer, Dieu veut un peuple d'adorateurs, afin que le réveil prenne place, afin qu'il y ait une onde de choc qui sortent de notre maison, de notre église locale, de nos foyers, de nos groupes de maisons, une onde de choc qui impacte le monde. Mais il faut qu'à l'intérieur, il y ait des adorateurs, des adoratrices en esprit et en vérité qui ont confiance en Dieu et qui sont libérés du joug du péché, qui s'éloignent du péché 3 jours et qui vivent l'œuvre de la croix pour adorer Dieu. C'est ça les bases de l'adorateur. C'est ça les bases d'une adoration. Mes amis, je vais conclure sur ces points. En disant que nous sommes destinés à adorer Dieu. Il n'y a pas d'autre destinée. C'est le but premier quand Dieu nous a créés. Il a dit adoration. On ne peut pas construire une maison puissante qui n'est pas basée sur l'adoration. Jésus au centre. Rendre grâce en toutes circonstances. Dieu parle depuis plusieurs messages maintenant et il nous enseigne cela. Et mon cœur est instruit. Je lui fais confiance. Si je ne lui fais pas confiance, je ne peux pas être un adorateur. C'est un préalable. Et si je ne suis pas sorti du joug de l'ennemi, je ne peux pas être un adorateur. C'est un préalable. Et une maison qui ne fait pas confiance ne peut pas être une maison qui adore Dieu. Et une maison dans laquelle il y a des personnes qui ont besoin d'être libérées et qui écoutent, on doit prier avec elles afin que la liberté, cette libération prenne place et qu'on puisse entrer dans notre destinée, qui est une destinée d'adorateur et d'adoratrice, les amis. J'aimerais m'arrêter là en faisant un appel et passer ensuite le relais au groupe de maison. Vous allez pouvoir prier dans les groupes de maison. Pour ceux qui sont actuellement même en live dans les groupes de maison, et pour ceux qui écoutent après, tu peux prier avec moi, tu peux prier avec un pasteur, tu peux contacter une église, tu peux nous contacter si tu as les contacts. Mais viens, ne reste pas tout seul. Il faut que tu redeviennes adorateur et on va prier ensemble. J'aimerais prier ce matin. Pour une personne, pour des personnes qui disent « Je ne connais pas le Seigneur, je n'ai pas goûté à cette adoration, j'ai un vide en moi et je veux que ce vide soit comblé. » Si ma nature même, c'est la nature, j'ai été fait à l'image de Dieu et que le vide, c'est l'image de Dieu qui me manque, alors je veux faire ce pas. Si tu le veux, là où tu te trouves, en live ou en différé, quand tu écoutes ce message, tu peux lever ta main et on va prier maintenant. Seigneur, je prie pour les personnes qui se disent « Je veux goûter à Jésus. Je veux revenir à mon identité première d'adorateur de Dieu et vivre tout le fruit que cela apporte dans ma vie. Je prie pour cet homme, je prie pour cette femme, maintenant même, qu'il y ait l'œuvre du Saint-Esprit qui descende sur elle et qui vienne changer sa vie, qui vienne libérer des liens de l'ennemi, qui vienne libérer de l'esclavage et apporte la vie maintenant au nom de Jésus. Amen. J'aimerais prier. Et ensuite, je laisse le relais au groupe. Priez pour des personnes qui connaissent le Seigneur et qui se sont éloignées d'une certaine façon, qui se sont mis sous le joug d'un ennemi, d'un homme fort. On l'a dit tantôt, Dieu dit, sors. Alors, si tu es concerné, tu peux lever la main ou te rapprocher d'une personne dans ton groupe de maison, si tu es actuellement même dans une maison, te rapprocher d'un responsable du groupe et ils vont prier pour toi. Et on va prier ensemble. On va se présenter devant cet homme fort et on va déclarer la délivrance maintenant, la libération, l'affranchissement, afin que tu sois une adoratrice, un adorateur selon le cœur de Dieu et que nous soyons une maison d'adorateurs. Amen, 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 amen. Je laisse les groupes de maison continuer. Vous pouvez continuer dans la louange, dans l'adoration et prier s'il y a ces situations-là dans chaque groupe de maison et adorer Dieu s'il n'y a pas ces situations pour lesquelles il faut intercéder. On peut adorer Dieu, l'adorer, car c'est le principe. C'est l'élément fondamental de notre maison. Et une maison puissante est une maison d'adorateurs, une maison d'adoratrices. Merci les amis d'avoir écouté ce message et soyez bénis. Je prie que ce message puisse avoir son écho comme le Saint-Esprit le veut. Amen.